Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors aujourd'hui, mon invitée du jour est une femme de tête qui a contribué à la place des femmes dans les milieux décisionnels. Il s'agit de Louise Champeau-Payet, une administratrice d'expérience bien engagée en mentorat auprès des femmes. Ses réalisations et son riche parcours professionnel ont été reconnus à tous les paliers. Ce qui l'anime dans son engagement, le courage, la confiance en l'autre, les compétences, les connaissances et le cœur. Avec cette humaniste, le cœur prend toute sa place dans un conseil d'administration. Bonjour à Louise Champeau-Payet.
Bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Ah ben vraiment, moi aussi. Et puis on a échangé, on connaît quelqu'un proche de nous, hein. On ne savait pas. Roland Payet qu'on salue dans l'émission. Alors Louise. J'ai vu vraiment tout votre parcours, tous les prix reçus et tout ça. Donc, moi, ce que je veux savoir un peu, avant de devenir la femme que vous êtes, la femme inspirante, la femme qui crée un impact dans sa société, j'aimerais aller dans l'enfance. Quel genre d'enfance avez-vous eu? Quel environnement dans lequel vous avez évolué?
Je dirais qu'en premier lieu, je viens de Trois-Rivières.
Oui.
Et un beau pays, la Mauricie.
Mm-hmm.
J'ai été élevée par des parents dont mon père a fait la guerre. Donc, c'était pour lui des moments difficiles qu'il avait traversés.
Mm-hmm.
Mais il avait un sens du devoir.
Oui.
Un sens aussi, un sens des arts.
Mm-hmm.
Et mon père m'amenait souvent dans le musée du Québec à l'époque.
Oui, oui.
C'était le musée national du Québec. Et il me contait des histoires, mm-hmm, sur toutes les peintures, les toiles qu'il pourrait y avoir au musée.
Ah,
il
oui.
m'a donné cette passion, au fond, de conter des histoires à partir...
Ouais.
De différents tableaux.
Mm-hmm.
Puis pour moi, ça m'a habité tellement,
oui,
qu'une fois que j'ai pris ce qu'on appelle la retraite, mais moi, je n'appelle pas ça la retraite parce que je continue à travailler
ben oui,
60 heures, 70 heures
par, j'en doute pas,
par
oui,
semaine.
Mm-hmm.
Mais une fois que j'ai pris ma retraite en 2005, je suis allée faire une maîtrise,
mm-hmm,
en muséologie.
Oui, j'ai vu ça. C'était parce que vous avez un parcours plus au niveau économie. Et,
oui,
et
j'ai
tout
un parcours
ça,
plus.
MBA, donc là, bam, on voit en muséologie. Donc,
et c'est ça qui explique,
okay,
au fond, parce que je voulais savoir comment on faisait des expositions.
Oui.
Comment on choisissait des toiles, puis comment on les faisait parler.
Mm-hmm.
Et j'ai eu la chance de faire ma maîtrise en muséologie à l'UQAM,
oui,
à l'Université du Québec à Montréal. Et une partie de ce cours, on le faisait au Louvre.
Ah, oh oui, wow, OK.
Et quand j'étais au Louvre, mm-hmm, j'ai eu la chance de faire une visite guidée,
mm-hmm,
avec des enfants sur un des parcours dédiés à cette clientèle-là.
OK, d'accord.
Ça a été un rêve de vie.
Un rêve de vie, c'est
oui,
ça.
Oui.
Puis la muséologie, qu'est-ce que ça vous a amené d'autre maintenant? Est-ce que vous...
Avec la muséologie, ça m'a appris... Peut-être de voir autrement,
oui,
les gens.
Les gens.
Parce que quand on fait des expositions, mm-hmm, on fait parler des toiles, des, mm-hmm, des artistes,
oui,
et on essaie de comprendre ce qu'ils sont.
Mm-hmm.
Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on apprend quand on est en sciences économiques.
Non, vraiment, oui.
Et
ouais,
pas nécessairement ce qu'on apprend quand on est en management.
Mm-hmm.
Et encore moins quand on suit des cours de gouvernance.
Oui, c'est vrai.
Donc, moi, quand je rencontre les gens, je les regarde dans les yeux, mm-hmm, puis j'essaie de savoir qu'est-ce qu'ils ont à me dire, qu'est-ce,
ouais,
qu'ils ont à me transmettre, puis qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils peuvent me... Comment ils peuvent me permettre d'aller plus loin dans mes passions?
Wow, ouais.
Mais au début, c'était seulement ça. Quand j'étais toute petite, j'entrais dans les musées, puis j'étais complètement émerveillée.
Ouais.
Mais à l'époque, la muséologie, là, c'est pas une petite trifluvienne, ça faisait pas partie des plans de carrière.
Ouais, ouais.
Et j'étais surtout forte en sciences, donc... J'ai fait une carrière au début en sciences économiques.
Oui.
Sciences économiques, c'est les mathématiques.
Hein? Ah ouais, c'est les mathématiques. Ben oui.
Alors, c'est très loin de la muséologie, mais j'avais, dans ce choix-là que j'avais fait, c'était pour... Il y avait un choix social.
Oui.
C'était pour... identifier ou pour définir des politiques de manière à ce qu'on puisse avoir une société plus équitable.
Wow. Okay.
Et ça, pour moi, c'est resté et ça reste un engagement de vie.
Ben oui, c'est ce que je vois. On peut même parler de mission de vie avec ce que j'ai vu, tous les projets sur lesquels vous avez contribué, les CA, etc. On remet justement, vous étiez en sciences économiques, etc. Au début de vos études, vous étiez, je pense, 2 femmes sur 100, ce que j'ai lu. Mais qu'est-ce qui a changé, Louise, ce moment-là à maintenant? Comment vous avez vu le changement au niveau de la société?
Pour la femme?
Oui, pour la femme.
Disons que lorsque j'ai débuté en sciences économiques, le fait qu'on soit seulement 2, ça permet pas beaucoup de contact avec les 2, on se parlait, mais on sentait qu'on était à part, qu'on ne faisait pas partie nécessairement du groupe.
Du groupe, parce que 2 sur 100,
c'est très, très peu. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre pourquoi il est important, quand on est une minorité, d'être un certain nombre pour pouvoir... avoir un impact sur un groupe. Pas nécessairement l'influencer, mais avoir un impact pour pouvoir... Enfin, on est dans la vie parce que pour moi, on se doit d'au moins changer quelque chose qui nous tient à cœur. Mais quand on est toute seule, puis on a la passion d'avoir une meilleure représentation des femmes à 2, c'est bien difficile.
Exactement.
Il faut avoir ce cœur et ce courage dont je parle souvent.
Oui.
Mais il faut avoir le nombre autour de soi. D'où l'importance de faire en sorte, au cours de mes premières années, où j'ai fait l'impossible pour m'entourer de femmes.
Oui.
Pour faire connaître le talent féminin.
Oui. Merci. Que vous êtes animé par des valeurs de partage, et puis vous avez une soif d'engagement. Vous expliquez ça par le fait, par déjà les débuts des études. Qu'est-ce qui a encore contribué à ce que vous vous engagez autant dans la cause de la représentativité des femmes?
Je dirais que l'autre élément qui m'a amené à m'engager encore davantage, c'est en 88, à l'autre siècle, si on peut s'exprimer ainsi. Je faisais déjà des études sur la représentation des femmes au sein des conseils d'administration. Et à l'époque, on était peut-être 5-6 % qui siégeaient à des conseils.
Oui.
Et bien souvent, les mêmes, donc ça ne fait pas grand monde. Grandes femmes, beaucoup de femmes qui siégeaient à des conseils d'administration. Et je pense qu'on amène une vision complémentaire quand on est femme.
J'aime bien le mot complémentaire, Louise, au lieu de différent.
Ouais, pour moi, complémentaire, je l'utilise toujours avec beaucoup de réticence parce que c'est comme si on était le complément de l'homme.
Oui.
Et pour moi, non.
Non, c'est ça.
C'est une vision autre. Mm-hmm. Je pense que les femmes de ma génération, dû au fait qu'on a suivi nos cours avec davantage d'hommes, on gardait quand on développait notre différence. Aujourd'hui, on suit les mêmes cours que les... Alors, cette distinction-là ne se matérialise pas dans la vie étudiante, mais elle se matérialise parce qu'on vit en tant que femme.
Oui.
Parce qu'on ne vit pas les mêmes défis que les hommes de la même façon. Une paternité et une maternité, encore aujourd'hui, se vit différemment selon qu'on est femme ou homme.
Oui.
Donc, est-ce une vision... C'est pas une vision... Ben, une vision complémentaire, homme et femme, parce qu'on est dans le même bain.
Exactement.
Mais c'est... Je pense que c'est même une vision autre de la vie qu'on développe progressivement, un face à nos défis qu'on a en tant que si on choisit d'être parent, mais aussi dans la vie de tous les jours, quand on travaille.
Mm-hmm.
Parce que les défis auxquels on est confrontés quand on travaille sont souvent les mêmes sur le plan de la productivité.
C'est ça.
Mais sur le plan de l'intégration, l'inclusion au sein d'un groupe, les hommes sont majoritairement présents encore aujourd'hui dans le milieu du travail. Mm-hmm. Alors, on est confronté à des situations où il faut faire notre place et avoir confiance qu'on peut réussir.
Mm-hmm.
Et ça, pour moi, c'est ça l'élément qui fait en sorte qu'on apporte toujours une vision autre, comme des personnes qui nous proviennent d'autres communautés.
Exactement.
Ou des jeunes, des plus jeunes.
Mais des plus jeunes aussi, oui.
Je suis une personne qu'on dirait plus expérimentée dû à mon âge.
Ouais, ouais.
Mais quand je travaille avec des plus jeunes, ils apportent une vision
autre aussi.
Qui enrichissent nos discussions.
Exactement.
Alors, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher toute cette richesse que la diversité, qu'elle prenne la quelque forme que ce soit.
Tout à fait.
D'aller puiser au sein de cette diversité pour prendre les meilleures décisions pour faire une société meilleure.
Une société meilleure, c'est ça. On va en parler plus loin de la diversité parce que j'ai bien aimé quelques phrases que je sais que vous avez dites. Là, j'aimerais savoir, vous êtes co-directrice, c'est ça, du Centre d'entrepreneuriat de gestion au féminin Barry F. Lorenzetti de l'Université de Concordia, que je ne connaissais pas, moi. Que fait ce centre?
Ce centre vise à faire... On fait des études sur les enjeux auxquels sont confrontées les femmes, mais aussi on organise des webinaires sur différents sujets qui vont toucher plus particulièrement les femmes. Et qu'on a eu récemment, c'est les femmes qui travaillent dans des milieux qui sont quasi masculin. Totalement masculin. Alors, ces femmes-là qui vivent dans ces milieux, mais quelles sont les problématiques qu'elles rencontrent, mais quels sont les moyens qu'elles peuvent utiliser pour faire leur place et poursuivre leur carrière dans ce domaine-là.
Ouais.
Ça, on le voit dans l'intelligence artificielle, on le voit dans les nouvelles technologies. C'est des milieux où il y a plus d'hommes que de femmes, où on voit la femme comme... L'homme peut même se questionner sur la présence de la femme, alors qu'elle peut tout autant être compétente dans ce milieu.
Ouais.
Mais on organise des webinaires qui nous permettent de parler, discuter de ces problématiques. Et on organise aussi des activités de mentorat.
De mentorat, d'accord.
Pour faire en sorte que davantage de femmes croient qu'elles puissent réussir dans des postes de haute direction, mais également dans le domaine de l'entrepreneuriat.
De l'entrepreneuriat. D'ailleurs, en parlant d'entrepreneuriat, comment les femmes se démarquent au niveau de l'entrepreneuriat? Comment elles se démarquent?
Les femmes se démarquent en ce sens qu'elles épousent des entreprises qui ont une vocation davantage sociale.
Sociale, hein, ouais.
Et s'il n'a pas cette combinaison d'entrepreneurship et de mission sociale, les femmes ne s'y retrouvent pas.
Ah oui, OK.
Et c'est la même chose dans d'autres carrières parce que l'entrepreneurship, c'est encore davantage d'hommes qui se retrouvent que de femmes, comme dans les postes de haute direction. Mais il faut, pour que la femme s'y sente bien et réussisse, faut qu'elle sente, elle se sente portée par une mission.
Ouais.
Et c'est ça qui fait la différence de la femme dans le domaine de l'entrepreneuriat qui réussit.
Ah ouais, ouais. On parle aussi de, il y a l'entrepreneuriat, on parle aussi de gouvernance, hein, le concept de gouvernance. T'sais, souvent, on pense que quand on parle de gouvernance, on parle de gouverner des grandes sociétés. J'aimerais ça vous entendre là-dessus parce que pour motiver les femmes aussi à dire qu'on n'est pas obligé de gouverner des grandes sociétés. J'aimerais ça vous entendre, Louise.
On n'est pas obligé de gouverner de grandes sociétés. D'ailleurs, moi, j'ai commencé ma carrière dans le domaine de la gouvernance à l'UQAM, l'Association des enfants atteints de cancer et de leucémie. Et voyez-vous, j'ai pu, je pense, contribuer à une certaine évolution de l'UQAM. J'ai perdu ma fille de leucémie en 92. Et à partir de 93 jusqu'à 98, j'ai été présidente de l'UQAM. Un des objectifs qu'on se donnait, et en tant que trifluvienne, c'était de faire en sorte que nos enfants puissent être diagnostiqués rapidement, qu'ils soient à Montréal, Trois-Rivières ou Chipougamau. Et cet objectif d'avoir des services pour diagnostiquer plus rapidement, pour aider les familles aussi qui sont à l'extérieur, c'est au fond, ce qui m'a amenée vers la gouvernance. Et j'ai toujours suivi, après, il fallait qu'il y ait un filon d'impact social pour que je puisse m'engager dans une fonction de gouvernance.
Ce que j'ai lu aussi sur vous, Louise, c'est que même lorsque vous laissez un poste, vous vous organisez toujours à motiver, promouvoir que ça soit remplacé par une femme. Vous l'avez fait souvent, ça.
Oui, parce que pour moi, j'ai confiance dans le talent, dans le talent féminin. J'ai, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement de talents féminins qui sont sous-utilisés parce qu'on ne pense pas, on ne pense pas à elles ou on croit qu'elles ne pourront pas réussir parce qu'elles vont avoir des enfants, parce qu'elles vont... Moi, le fait d'avoir ou pas un enfant, pour moi, c'est un choix personnel.
C'est un choix personnel.
C'est aussi... L'une vie avec ou sans... Pour moi, c'est aussi important. Mais ce qui vient me chercher mes énergies, au fond, c'est le fait de dire que quand on est femme, on peut réussir avec ses particularités. Alors, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en a pas, qu'on a tellement de potentiel que je me dis, moi, je le vois. Donc, comment je peux me faire pour faire en sorte de faire connaître davantage ses talents, qu'elles peuvent emprunter peut-être le même sillon, ou que je puisse parler d'elles à d'autres personnes pour qu'elles puissent avancer.
Champeau Paillé, on a parlé de beaucoup de concepts, celui de la gouvernance et tout. Là, j'aimerais parler de celui de DEI, diversité, équité et inclusion. Pour moi, ce sont des termes qui ont été tellement galvaudés et on a même parlé du diversity washing et tout. Donc, puis j'ai bien aimé la subtilité de ce que vous avez dit là-dessus. Donc, je vais vous demander de partager votre vision du DEI.
Alors, pour moi, le DEI, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas une seule pensée dans une organisation, que tous, on peut contribuer par notre vécu à la prise de décision au sein d'une organisation.
Ouais.
Et tous et toutes, là, ça veut dire, et ça ne veut pas dire seulement hommes et femmes, comme je disais tantôt, ça veut dire aussi les autres communautés.
Ouais.
Et ça veut dire aussi les gens de tout âge. C'est une dimension qu'on oublie souvent.
Oui.
Parce que nos postes de pouvoir, et aujourd'hui, ça devient moins vrai, mais nos postes de pouvoir sont souvent occupés par des personnes de 50 ans
oui,
et plus.
Et plus oui,
la jeune génération n'est pas beaucoup présente à ce chapitre-là. Or, nous vivons dans un monde où ce sont les médias sociaux. C'est des préoccupations environnementales, les changements climatiques. Tous ces éléments-là, les jeunes ont une grande sensibilité et ils peuvent nous ouvrir aux plus expérimentés des champs d'action auxquels ils n'ont pas été formés nécessairement. Moi, j'ai été formée surtout à prendre des décisions avec des considérations financières. Est-ce que ça rapporte ou ça rapporte pas? Est-ce que notre actionnaire est plus heureux avant qu'après? Mais aujourd'hui, c'est différent.
C'est vrai,
oui. On va consulter les parties prenantes, tous ceux qui sont alentour d'une organisation. On va aussi avoir des objectifs sur les gaz à effet de serre. On va avoir des objectifs sur l'inclusion des personnes handicapées. On va avoir des objectifs sur les Premières Nations.
Exactement.
Je travaille avec une personne qui est représentante des Premières Nations. Et il apporte tellement une dimension haute quand il nous parle de la prise de décision.
Il nous
apporte la dimension d'un cercle. Quand on prend une décision, il faut avoir l'apport de tous ceux et celles qui sont impactés par la décision. Alors, cette notion de cercle, dans un cercle, il n'y en a pas un plus grand et un plus petit. Tout le monde est pareil. Mais tout le monde se doit d'apporter sa différence.
Oui, en effet.
Et pour moi, la diversité, l'inclusion, c'est de s'ouvrir à la différence des personnes handicapées. Des personnes aussi sur le plan intellectuel. Mais la richesse qu'ils apportent à notre vie de gestionnaire, notre vie d'administrateur, est tellement importante que de passer à côté de cette diversité, de l'inclusion et de l'équité, pour qu'ils soient assis à la même table.
Exactement. Puis ce qui arrive aussi, c'est que, et puis vous l'avez dit, c'est que parfois, on veut juste faire de la diversité pour faire de la diversité, puis on place plein de gens à des postes qui sont peut-être même pas décisionnels, alors finalement, ils se retrouvent pas autour de la table. Ils se retrouvent dans l'image de ce qu'on veut donner de l'entreprise, mais pas réellement dans les prises de décision.
Et c'est la pire chose qu'on peut faire, parce que ils ne réussiront pas non plus.
C'est ça.
Ils vont se découvrir. Puis ils vont être à l'extérieur du cercle.
Oui.
C'est pas ça. Il faut travailler à ce qu'on soit tous sur le même pied.
Sur le même pied.
Et tous sur le même pied pour prendre les meilleures décisions.
Voilà, exactement. Puis vous, vous avez au sein des organisations, des entreprises où vous étiez, est-ce que vous avez eu un œil aguerri par rapport à ça? Vous avez posé des actions?
Oui, ouais. J'ai posé des actions sur le plan du recrutement,
oui.
Sur le plan aussi des stratégies de ressources humaines, bien oui. Entendu, mais aussi sur le plan de développer ses talents, de faire confiance à ces personnes.
Ces personnes-là.
Et ça, quand on parle de diversité, d'équité et d'inclusion,
oui.
La valeur première qu'on doit avoir, c'est la confiance dans le potentiel chaque personne.
De chaque personne.
Si
tu n'as
pas cette confiance-là,
tu pourras pas en faire.
Et c'est le blanchiment, la diversité blanchiment, c'est ça, au fond. C'est que ce n'est pas appuyé sur des valeurs de confiance,
exactement.
D'authenticité.
Oui, le diversity washing, qu'on appelle
c'est
ça.
Oui, c'est ça.
Exactement. Ben, tout à fait. Parce qu'il faut placer la personne à la bonne place pour qu'elle puisse contribuer aussi.
Oui. Et puis qu'elle puisse contribuer, puis qu'elle puisse avancer.
Oui.
Pour moi, ça, on oublie trop souvent ça. On dit, on va lui donner une place, elle va être de bonne collaboratrice. Mais
ben oui.
Ben non, faut faire en sorte qu'elle atteigne les postes
exactement,
les plus élevés. Et pour moi, c'est ça qui est important, de donner la chance à ce qu'on ait des personnes. Puis, savez-vous, présentement, on regarde les présidents et chefs de la direction, le PDG de l'organisation.
Ouais.
Au Canada, il y a seulement 5% de femmes qui sont PDG.
Ah ouais.
Puis si je vous disais, si je parlais des communautés, on est dans les décimales.
Tout à fait, j'en doute pas. Merci, Louise.
Écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Alors, toujours au micro avec moi, Louise Champeau-Paillé, administratrice bien engagée en mentorat. Alors, Louise, vous travaillez fort au sein de la gouvernance au féminin à titre de coprésidente du comité certification parité. Donc, premièrement, que fait la gouvernance au féminin et que faites-vous dans le comité de certification parité?
Gouvernance au féminin, c'est un organisme qui est dirigé par Caroline Cotty. Et l'objectif, c'est au fond de promouvoir une meilleure représentation des femmes dans les organisations.
Oui.
Les grandes et les moyennes organisations. Et il y a environ 7 ans, 8 ans, Gouvernance au féminin a mis en place un programme permettant d'évaluer jusqu'à quel point les entreprises prennent les moyens pour accroître la représentation des femmes.
Oui.
Donc, on a développé des indicateurs qui nous servent afin d'évaluer si ces entreprises-là sont dans la bonne direction et pour aussi identifier celles qui font très bien leur travail d'inclure davantage de femmes, d'autres qui sont au départ, au début. Puis ça fait en sorte que ça crée des modèles. Parce que, au fond, une meilleure représentation des femmes au sein des organisations, bien, il y a des chemins, il y a des voies qu'on peut emprunter.
Exactement.
Puis quand on voit un autre qui a pris cette voie-là puis qui a eu des résultats, ça lui a permis de peut-être avoir une image, une meilleure réputation dans le marché, de mieux connaître ses clients, etc. Bien, ça permet aux autres qui sont au départ, bien, de dire, bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis leur recette. Peut-être que c'est pas la même recette,
oui.
Mais connaissant la recette, ben, je peux peut-être l'adapter à ma situation.
Mm-hmm.
Alors, la fonction de ce comité-là, c'est d'identifier ces entreprises selon certaines catégories, de manière à ce qu'on puisse faire connaître leur bon coût.
Mm-hmm. OK. Et puis, les entreprises sont sollicitées, ils sont ouverts à ça depuis que vous
les
êtes dans le comité?
Oui, parce que les entreprises... on a de plus en plus dans les entreprises ce souci de partager ces bonnes bonnes recettes, si on peut s'exprimer ainsi.
Mm-hmm.
Donc, mais ça transforme aussi notre société.
Bien sûr.
Parce que les entreprises ne sont plus là seulement pour, disons, pour l'argent qu'elles peuvent produire, puis les actions, mais elles sont là également pour transformer notre société vers une meilleure. Donc, ça amène au sein de nos dirigeants de nouvelles préoccupations
qu'ils avaient peut-être moins avant ou pas du tout.
Quand j'ai commencé à parler de la à faire de l'action pour la représentation des femmes, comme je vous disais, en 88, j'étais une rêveuse. Alors qu'aujourd'hui, ça fait, je dirais, au sein des grandes entreprises, ça fait partie de leur vécu.
De leur vécu, c'est ça,
Peut-être pas à la hauteur d'où j'aimerais qu'ils soient rendus.
Oui, oui.
Mais...
Exactement. On parlait des pourcentages, puis on était encore au 30 % est-ce que... puis je sais que vous voulez atteindre un 40 % mais est-ce que j'ai lu que c'est dans à peu près 130 ans pour qu'on arrive là?
Oui, vous avez bien lu. Vous avez bien lu, puis ça, c'est, c'est que il y a une problématique au niveau de la relève. Les femmes s'aperçoivent, ça, j'ai produit un article sur ça avec la doyenne de Concordia.
Oui.
Les femmes s'aperçoivent qu'elles ne veulent pas réussir à tout prix. On veut réussir en autant que nos objectifs personnels, que nos objectifs familiaux soient atteints. Mais réussir pour réussir peut atteindre le plus haut niveau en ayant perdu son équilibre. Elles ne veulent pas ça. Réussir à tout prix. Et je vous dirais que l'espoir, c'est que pour plusieurs hommes aujourd'hui, réussir à tout prix, ça mijote.
Ah oui, ça mijote quand même?
Ça mijote. Les congés de paternité, c'est sûr que ça ne se prend pas comme les femmes les prennent.
Oui, oui.
Mais combien de fois, dans mon mentorat, parce que je fais du mentorat tout autant auprès des hommes que des femmes.
Ah oui, d'accord.
Et dans mon mentorat, les hommes vont me dire, j'ai de la joie à être près de ma fille ou de mon fils. Donc, ils découvrent ces valeurs que nous apporte la parentalité.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est encourageant pour notre société. Est-ce que ça va aussi vite que je veux? Non.
Oui.
Mais il y a des valeurs positives qui se créent progressivement. Parce que pour une personne, la réussite, c'est plus seulement le statut social au travail.
Non, ça c'est vrai. Ouais.
Tant pour les hommes que pour les femmes.
Oui.
Thank you.
Louise Champeau-Payet. On a parlé de beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais parler des quotas. Est-ce que vous êtes en accord avec les quotas pour une plus grande représentation de la diversité?
Je crois que le fait qu'on attende encore 130 ans pour atteindre une meilleure représentation des femmes, on se prive tellement de talent. Il est sûr qu'une femme ou qu'une personne qui provient d'une autre communauté qui serait nommée parce qu'elle fait, il y a un quota pour nommer des personnes d'autres communautés. Ou pour les plus jeunes, on a les 35 ans et moins,
bien sûr.
Dit, il faut avoir au moins un jeune de moins de 35 ans.
Oui.
Il est sûr que ça rend difficile l'inclusion de ces personnes. Mais on fait aujourd'hui tellement de formations. Mm-hmm. Je passe beaucoup d'heures de mon travail. Ça consiste à former des jeunes, des femmes et des gens pour pouvoir siéger à des conseils d'administration.
Oui.
Pour ne jamais se considérer comme un imposteur quand on arrive dans ces fonctions-là.
Mm-hmm.
On est là parce qu'on a été choisi et qu'on apporte une dimension nouvelle dans la prise de décision.
Mm-hmm.
Ce que je transmets à ces personnes-là, c'est de dire, prenez votre place. C'est sûr qu'il faut se préparer, il faut avoir, le goût d'être présent à ces tables-là, mais elles ont tellement à apporter, donc on a un devoir, nous, les plus expérimentés, à les appuyer, à les aider, à leur donner, au sein d'un conseil d'administration, le droit de parole.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce que souvent, quand on a le sentiment d'imposteur, on ne parle pas.
C'est vrai, oui.
Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut j'ai confiance dans qu'est-ce que tu peux apporter à notre prise de décision.
Ouais.
Dis-nous ce que tu en penses.
Mm-hmm.
Et là, c'est là qu'on fait en sorte qu'on forme progressivement, non pas seulement par les compétences et les connaissances, mais qu'on développe un savoir-être.
Un savoir-être, en effet. Puis en imposant des quotas, donc on est beaucoup plus sûr d'arriver et du milieu peut-être le 130 ans à un petit peu moins, parce que
Puis on a tous les talents. T'sais, moi, quand j'ai... En 88-89, nous étions très peu de femmes.
Oui.
Donc, t'imposes un quota, t'as toujours les mêmes,
ou
c'est... Il n'y a pas beaucoup de choix.
Bien sûr.
Mais aujourd'hui, on ne doit pas penser comme ça. Parce que on a tellement de choix parmi les femmes.
Mais
il y a la majorité... Aujourd'hui, 60 % des diplômés universitaires sont des femmes.
Des femmes, OK. Ouais.
Alors, il y a cette présence de talent qui assure à celles et ceux qui ont à choisir de nouveaux administrateurs ou de nouveaux dirigeants qu'ils vont avoir un choix dans les talents.
Oui.
Donc, le quota en soi, pour moi, ne fait que favoriser l'accès plus rapide à ces postes-là.
Oui. Vous avez tout à fait raison. Vous avez été sur deux séances où vous êtes encore peut-être et vous avez côtoyé les personnes des Premières Nations. Je sais que tout à l'heure, vous avez parlé brièvement de ce que ça avait apporté, mais en plus, vous avez dit qu'il y avait une forme... un apport holistique aussi. J'aimerais ça que vous exprimiez là-dessus, Louise.
Ah oui, quand on discute de toutes les questions de mieux-être au travail, de bien-être, depuis la pandémie, je pense qu'on s'est beaucoup éveillé à l'importance d'avoir des collaboratrices et des collaborateurs qui sont bien dans leur travail.
Mm-hmm.
Pour les Premières Nations, quand on parle de bonne santé, mm-hmm. ça comprend différents éléments. Il n'y a pas juste la santé physique,
oui.
il y a la santé psychologique, mm-hmm. il y a la santé la santé disons l'équilibre tout
hein?
ça. Mm-hmm. Il y a 5 ou 6 valeurs et quand on regarde tous les programmes mm-hmm. qui existent dans le mieux-être,
oui.
pour dire, ah oui, ça, c'est peut-être pour la santé puis la sécurité, mm-hmm. mais il y a d'autres formes de santé, de sécurité qu'on doit.
Oui.
Alors, comment on doit ouvrir nos horizons pour assurer à tous qu'ils soient heureux mm-hmm. dans leur mais c'est une vie de 8 à, de 9 à encore de 9 à,
oui.
à 5.
Ben oui, oui
donc
oui.
il faut être se sentir bien mm-hmm. dans son travail. Alors, mais l'entreprise a une responsabilité eu égard à ça mm-hmm. et ces premières nations là mm-hmm. Tout ce qui est de religion, mais de religion, de valeurs
oui.
qui nous habitent, d'avoir cet équilibre dans nos valeurs. Mais pour moi, ça doit donner un nouveau souffle de vie mm-hmm. à toute notre façon de voir la gestion des ressources humaines.
Ben, puis je suis en train de penser, j'ai vu toute la liste de prix, de bourses que vous avez reçues. Je peux même pas les citer. Membre de l'Ordre du Canada, grande ambassadrice de l'École des sciences et de la gestion de l'Université du Québec, prix du gouverneur général, puis membre distingué, fellow, ben on va pas les dire toutes, mais ce que je voulais, pourquoi j'en ai cité quelques-uns, si maintenant il y avait un prix et une bourse qui portaient votre nom, qu'est-ce que vous voudriez qu'il récompense, le prix ou la bourse, qu'elle récompense?
L'engagement dans la société.
OK.
Mais pas les grandes transformations.
Oui.
Les petites choses qu'on a pu. Des gens qui... Des fois, on pense aux grandes réalisations.
Oui, bien sûr.
Il y a des gens qui contribuent mm-hmm. à changer la vie pour une personne.
Oui.
Puis cette personne-là continue mm-hmm. sa vie. Pour moi, cette bourse
oui.
devrait reconnaître
l'engagement
oui. la compassion oui. qu'on peut avoir pour un autre.
Oui.
La bienveillance.
Oui.
Vous savez, je siège à l'hôpital Sainte-Justine mm-hmm. et à chaque fois, je vois des enfants mm-hmm. qui sont malades.
Mm-hmm.
Je me dis, on a une responsabilité. Moi, en tout cas, je me dis, faut que je contribue
oui.
à faire en sorte que peut-être dans 10 ans, 15 ans, on trouve un petit remède
mm-hmm.
qui fera en sorte, peut-être pas que la maladie va être guéri.
Oui.
On a fait un pas vers un peu de guérison.
Oui.
Mais surtout aussi mm-hmm. un pas pour que ces enfants-là vivent leur vie.
Mm-hmm. Oui.
C'est tout ce qui nous appartient, notre vie.
Exactement.
Et qu'on prive un enfant
oui.
de vie.
Mm-hmm.
J'ai beaucoup... C'est ma vie, là. C'est ma...
Bien sûr.
Mais je pense qu'on ne voit pas suffisamment
oui.
l'importance de la vie.
De la vie, oui. Louise, je suis avec vous là-dedans. Votre unique fille, Gabrielle, est décédée en 1992 des suites d'une leucémie, donc on peut comprendre votre état d'émotion là-dessus. Vous êtes engagée avec le camp par la suite. Mais je vous entends, vous avez tellement de paroles, motivantes et inspirantes. Et quelles forces ou valeurs vous animent qui vous ont permis de continuer votre mission de vie après ce drame? C'était votre unique enfant.
L'espoir de pouvoir changer une petite chose.
Oui.
L'espoir de pouvoir continuer à pouvoir sourire
mm-hmm.
un enfant.
Oui.
Sourire une personne
mm-hmm.
qui est dans le besoin.
Mm-hmm. Oui.
C'est vivre, au fond, c'est... c'est apporter du bonheur à l'autre.
À l'autre, ouais, ouais. Et c'est ce que vous continuez à faire auprès des femmes et sûrement auprès de tout le monde. Hein. Il y a quelque chose que j'ai lu aussi qui m'a touchée sur vous, parce qu'on parle de confiance. Je ne me souviens plus où je l'ai vu. Puis je me dis, on est en 2024 et tout, puis... Vous dites que vous avez encore confiance en l'autre hein, et c'est ce qui vous motive. C'est quand même, souvent on entend « Oh, j'ai plus confiance et ainsi de suite. » Mais vous mentionnez, c'est encore ça qui vous motive, la confiance en l'autre. Donc, oui. vous êtes dans cet espoir que faire confiance est encore de mise dans notre société.
Mais être mentor, c'est ça au fond.
Oui.
C'est d'avoir confiance dans le talent d'un autre.
Ouais.
D'avoir confiance dans son talent, des fois, la personne ne le voit pas. Et de le révéler à cette personne-là. Pour moi, c'est une des grandes joies de ma vie.
Ouais.
Et pour moi, s'il y a des gens là, qui souhaiteraient me connaître sous la forme mentorat, c'est une façon d'être heureuse pour moi, de vivre ma vie.
Oui, c'est ça. Quelle belle générosité, hein? De cœur. Toujours avec Louise Champeau-Paillé, administratrice bien engagée en mentorat. Louise, on a parlé des marques de reconnaissance. Quelle marque vous a plus touchée dans tout ce que vous avez eu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement touchée que vous ne croyez pas recevoir ou bien vous...
Non. Tout ont un axe de ma carrière.
Oui.
Au fond, c'est quand on parle d'engagement bénévole, de représentation des femmes, des personnes qui proviennent d'autres communautés ou les plus jeunes. Pour moi, tout ont une signification particulière. Je dirais pas qu'il y en a un, mais moi, je vois ma vie comme une sorte de casse-tête. Puis chacun de ces petits éléments-là apporte une signification à ce que j'ai pu réaliser dans ma vie. Et ça revêt vraiment... Ça donne une signification à ma vie. C'est la réalisation que reconnaît le prix.
Oui, je vois.
C'est pas le prix en soi.
C'est ça.
C'est mon petit casse-tête.
Je comprends.
Ces petits morceaux qui s'imbriquent les uns dans les autres.
Exactement. Puis qui vous fait aussi, vous aussi, de voir tout votre parcours. Moi, je trouve que les prix aussi, ça nous permet de dire, ah, mais oui, de s'arrêter, puis de dire, mais c'est vrai que j'ai fait ça. Parce que souvent, en plus, en tant que femme, on fait, parce qu'on a envie de faire, de poursuivre. Mais souvent, on a de la difficulté à reconnaître ce qu'on fait. Puis le prix aussi permet aussi... je pense de réfléchir un peu, de dire, bien sûr, j'ai contribué, voilà ce que j'ai fait. Puis, est-ce que, si je vous demandais, quel aurait été le meilleur coup de votre vie, de votre carrière? Quelque chose dont vous êtes particulièrement fière?
Moi, je dirais que c'est mon engagement dans le mentorat.
Oui.
Parce que... peut-être aussi dû au fait que lorsque j'ai débuté ma carrière, j'avais pas beaucoup de mentors. J'avais des femmes qui étaient dans des postes plus élevés. Il y en avait peu. On ne parlait pas de mentorat à l'époque. Et on se révélait à soi-même, on se découvrait progressivement, oui. Essais, erreurs.
C'est ça, oui.
Tandis qu'avec le mentorat, il y a moins d'essais et d'erreurs.
Oui.
L'autre, le mentor, va poser des questions. Il ne dira pas quoi faire.
Oui, oui.
Mais il va poser des questions qui m'ont amené à trouver ta voix.
Oui.
Et c'est ça qui est important pour moi, d'être cette... Moi, je m'appelle une allumeuse réverbère,
oui.
Comme dans Le Petit Prince.
Non, oui.
Oui, je me vois comme ça avec ma petite flamme là, qui va... Pour moi, c'est peut-être ce qu'on peut faire de mieux dans la vie, de faire en sorte qu'une autre personne... prenne sa place.
Oui, oui, oui.
Et puisse penser qu'elle va changer quelque chose.
Ouais.
Qu'elle va le redonner à une autre.
À une autre. Hein.
À une autre personne.
Ouais.
Alors, pour moi, quand vous me dites c'est ce dont je suis le plus fier comme engagement, c'est vraiment... Ce mentorat-là. L'aide à l'autre.
Oui, qui est transfert aussi de connaissances et compétences. Dans ce beau transfert, alors je vous mets devant vous, alors je mets devant vous un coffre à outils que vous devez remettre à une femme qui aspire à des sphères décisionnelles. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre dans ce coffre à outils, Louise?
Moi, je vais lui mettre un bon mentor.
Ah oui, c'est ça.
Je vais lui mettre de la formation nécessaire.
Oui.
Et des organisations qu'elle va, pour lesquelles elle va vibrer, pour lesquelles elle va avoir une passion. J'ai mentionné le camp.
Oui.
Ça peut être d'autres choses. Pour une femme ou un homme. Mais des organisations qui font en sorte qu'on se pousse plus loin, qu'on veut dépasser nos limites.
Oui.
Parce que c'est comme ça qu'on est femme.
Bien sûr.
Ou qu'on est homme.
Oui.
Quand on va au-delà de ce qu'on pense qu'on peut faire. Et on peut faire tant plus que qu'est-ce qu'on pense qu'on peut faire.
Oui, oui.
Pour moi, ça, les personnes n'ont pas de limites. J'aime les gens.
Oui, oui. on voit puis on ressent toute votre passion, Louise. Voilà. Donc, alors, puis je vais vous le dire, vous êtes inspirante, vous avez fait tout ce parcours. Merci d'avoir contribué autant pour les femmes et tout. Alors maintenant, une femme qui vous a inspiré, ce serait qui? Est-ce que...
Bon, une femme qui m'a inspirée. Ben, il y a sûrement...
Peut-être quelqu'un de votre famille aussi. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Hein, c'est...
Oh, ma mère.
Oui, c'est ça. On pense souvent à... On regarde souvent ailleurs, mais...
Ma mère était une féministe des années 20 ou 30. Et mon père. Ils croyaient tous les deux qu'une femme pouvait réussir.
Wow! Donc, c'est de là que vous vient aussi cette force de poursuivre.
Cette confiance qu'ils ont mis en moi, qui a été indéfectible.
Wow! Merci.
Oui.
Merci. Oui, vraiment, pour cette belle émission, pour moi, ça a été une pure joie. J'avais déjà fait la découverte sur papier et tout, mais de vous avoir eu au micro, ce fut un privilège. Merci pour ce que vous transmettez et cette inspiration que vous donnez, que vous me donnez.
Merci, Marjorie, de me permettre de mieux vous connaître.
Oui.
Et de voir jusqu'à quel point vous vibrez. Vous avez de la passion pour votre profession, puis vous avez de la passion pour les autres.
Aussi, tout à fait. D'accord, merci. Alors, sur ces mots, je rappelle que mon invitée est Louise Champeau-Payet, une administratrice bien engagée en mentorat, une femme de cœur. Vous avez pu bien la reconnaître de notre émission. Alors, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et ici Marjorie Théodore qui vous donne notre rendez-vous la semaine prochaine.